C'est l'heure du journal. Isabelle Millet.
Je vais tremper mes pieds. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer. Aussi, je suis contente de revoir le sable.
La joie du retour à la plage, pas encore pour tout le monde, mais c'est un début, on sera à la boule dès le début de ce journal. Les Français pourront-ils voyager cet été? Les frontières vont-elles rouvrir? Bruxelles fait le forcing pour sauver le tourisme européen, mais on verra que tous les pays ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Des médailles et des primes pour les soignants, personne n'est dupe, disent les intéressés. À Lille, le CHU déploie les gros moyens. Dès la fin de la semaine, 3000 tests seront pratiqués chaque jour. La rentrée des classes, demain à Paris, deux jours après les autres, et des enseignants qui mettent en garde.
Si jamais des enseignants viennent et voient qu'ils ne peuvent pas faire leur travail correctement et donc ça veut dire mettre leur santé en jeu et celle des élèves, bah peut-être qu'il y a des enseignants qui feront usage de leur droit de retrait.
Et vous, avez-vous davantage fumé pendant le confinement? C'est apparemment une tendance générale observée par les autorités de santé.
D'abord, moi, j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de stress sur des sujets que je ne connaissais pas. Dans ce monde de confinement, on était un peu privé de liberté. Il y a un moment, ma cigarette électronique, elle était tout le temps déchargée.
Les Français ont un peu plus fumé, mais un peu moins bu, semble-t-il. Un temps mitigé pour demain. Au nord de la Loire, ce sera sec et plus ensoleillé qu'aujourd'hui, mais toujours frais à cause du vent du nord-est. Tandis qu'au sud, encore beaucoup de pluie et des orages. Et là aussi, les températures resteront en dessous des normales de saison. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé en forte baisse ce soir, moins 2,85%. Claire Lemaître de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Et puis, comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Caroline Parot, la présidente du directoire d'Europcar Mobility Group. Les loueurs de voitures qui sont évidemment eux aussi très impactés par cette crise. Europe 1. Les pieds dans le sable chaud, vous en rêvez sans doute après deux mois enfermés chez vous. Pour la plupart d'entre nous, malheureusement, ça n'est pas encore pour tout de suite. Mais si vous habitez la Loire-Atlantique, la Vendée ou le Finistère, alors vous avez beaucoup de chance puisque les plages sont de nouveau accessibles. Et pour fêter ça, le soleil était même de la partie aujourd'hui, de la Baule à Pornichet, une réouverture qui était très attendue, Charles Guyard.
Eh oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Rarement un arrêté préfectoral n'aura soulevé autant d'enthousiasme. Celui affiché dès ce matin à Pornichet, puis à la Baule, a attiré de nombreux promeneurs toute la journée sur la plage. Ils y sont d'ailleurs encore nombreux en ce moment. Une plage qui était devenue un souvenir pour certains, comme Alexandra.
On avait à peine le droit d'aller la voir, ne serait-ce qu'à pied. Donc c'est chouette de se retrouver, de sentir le sable sous les pieds.
Le sable et les premières vaguelettes aussi que les enfants ont pu retrouver et se réapproprier. Arsène et Camille.
Je vais tremper mes pieds. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer. Aussi, je suis content de revoir le sable.
Plus loin, c'est Jacques, retraité, qui se promène avec son épouse. Cette plage, elle l'a presque narguée tous les jours et pour cause.
J'habite juste là, en face. Là, je la regardais de la terrasse.
Cette réouverture s'accompagne en tout cas de conditions. Évidemment, on est sur le principe de plage active. Pas question de s'y attarder, encore moins d'y pique-niquer. Malgré cela, Amélie et Rémi ont quand même sorti la glacière.
Oui, d'accord, on a tout pour quoi.
C'est vrai que quand on s'est installé, on a vu qu'il n'y avait pas grand monde qui était installé aussi. Donc on s'est dit c'est autorisé ou pas.
Les règles sont pourtant affichées à chaque point de descente sur la plage. Attention, hein, car des patrouilles de police vont veiller à leur application, notamment les week-ends à forte affluence. Et pour faire respecter la fermeture de nuit entre 21h et 8h, la mairie de la Baule a même fait appel à une société de sécurité présente donc dès ce soir.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, sur la Côte d'Azur. Plusieurs plages seront également accessibles ce week-end, mais a priori dans les Bouches-du-Rhône, il faudra sans doute attendre encore jusqu'à la fin du mois. Alors la plage, on en a tous envie, mais quelle saison estivale à venir? Les professionnels du tourisme sont suspendus aux annonces d'un comité interministériel qui se tiendra demain avec déjà plusieurs points d'achoppement, notamment sur la distanciation dans les restaurants ou encore sur les exonérations de charges. Il est encore trop tôt pour crier victoire, mais les deux premiers jours de déconfinement se sont plutôt bien passés. C'est ce qu'Emmanuel Macron a déclaré à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Prochaine étape, le 2 juin, date où, en fonction de l'évolution de la pandémie, les modalités du déconfinement pourraient évoluer. Cet après-midi, le chef de l'État fait le point en visioconférence avec les préfets de région et les directeurs des agences régionales de santé. Autre étape importante et très attendue également par les Français, la question sensible des déplacements dans et hors de France. Bruxelles veut sauver les vacances d'été des Européens et encourage même les 27 à ouvrir progressivement leurs frontières. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1. Une date est même déjà envisagée. On parle, Isabelle, du 15 juin pour la France et pour certains de nos voisins.
Oui, la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche se sont fixés cet horizon. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a parlé à ses homologues en début de semaine. Ils veulent essayer de supprimer les contrôles aux frontières d'ici un gros mois. Alors à ce stade, c'est un objectif, pas encore une certitude. Mettons en garde à Paris, il faut rester prudent parce que ça va dépendre de l'évolution sanitaire dans les semaines à venir. À Bruxelles, ce premier pas est quand même salué comme le signe d'un début de retour à la normale. Étant donné que le tourisme représente un dixième du PIB européen, la Commission européenne voudrait sauver la saison estivale, même si elle reconnaît que l'été ne sera pas complètement normal. Bruxelles propose des critères pour permettre les voyages d'un pays à l'autre. Il faut évidemment que la circulation du virus soit basse et stabilisée. Il faut que les hôpitaux des régions touristiques du pays de destination soient capables de faire face à un afflux. Et il faut pouvoir tracer les visiteurs et leurs contacts. D'ici l'été, la Commission a promis un site internet avec des informations en temps réel. Il permettrait aux vacanciers de connaître la situation précise aux frontières et dans les régions touristiques en Europe.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. La prime pour les soignants et pour le personnel non médical des hôpitaux promise par le chef de l'État. Cette prime sera versée dans les prochaines semaines sur la paye de mai ou bien sur celle de juin. Le décret est sur le point d'être signé. Elle ira de 500 à 1500 euros et sera exemptée d'impôts et de cotisations sociales. Une récompense similaire est prévue pour le personnel des EHPAD. Les soignants qui seront mis à l'honneur le 14 juillet, un hommage leur sera rendu. Par ailleurs, une promotion spéciale de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite sera publiée le 1er janvier prochain. Elle comprendra une part importante de personnes qui ont contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité. Écoutez la réaction ce soir sur Europe 1 du professeur François Salacas. Il est neurologue et il avait notamment interpellé Emmanuel Macron sur la situation critique de l'hôpital lors de sa visite à la Pitié-Salpêtrière.
Ça m'inspire de la colère, globalement. Je pense que personne n'est dupe, enfin, ou j'espère plus exactement que nos concitoyens ne sont pas dupes. Ceux qui nous applaudissent tous les soirs, je pense que si on les interrogeait, ils comprennent très bien qu'il ne suffit pas de reconnaître l'effort qui a été fait pendant la crise du Covid, mais qu'il faut permettre aux soignants d'exercer leur métier. C'est quand même difficile de ne pas entendre que ce que demandent les soignants, c'est de pouvoir soigner des patients. On a un président qui est en première ligne, qui monte au front, qui s'expose, qui dit des choses. Et pour l'instant, qui ne fait rien. Je lui ai demandé d'agir. Je suis pour l'action. Et l'action, c'est quoi? Si l'action, ça se résume à des primes et à des hommages le 14 juillet, ben je pense que l'ensemble de la communauté des soignants en tirera les conclusions qui s'imposent.
Le professeur François Salacas, qui était l'invité du Grand Journal du Soir de Nathalie Lévy sur Europe 1. On sait que l'un des gros enjeux du déconfinement, c'est la généralisation des tests de dépistage, y compris au sein même des hôpitaux. À Lille, le CHU déploie de gros moyens dès la fin de la semaine. 3000 tests seront pratiqués chaque jour et ce sera même systématique sur le personnel, mais aussi sur les patients qui viennent subir une opération, Lionel Gougelot.
Oui, et sur les 16 000 médecins, personnels soignants et agents administratifs que compte le CHU, 1500 ont déjà été testés. Et la campagne de ces tests PCR et sérologiques va se poursuivre dans les prochains jours, en parallèle avec un dépistage systématique donc des patients qui seront admis à l'hôpital dans les filières hors Covid pour ce que l'on appelle un geste invasif, c'est-à-dire une opération chirurgicale, ou pour des patients qui sont considérés comme à risque. L'objectif, explique Frédéric Boiron, le directeur général du CHU, c'est de sécuriser les différentes filières de soins dans cette période de reprise d'activité de médecine traditionnelle.
Cette modalité d'organisation, elle nous permet d'organiser le mieux possible la distinction entre les personnes positives, porteuses de la maladie, du virus, et les personnes qui n'ont pas le Covid-19. Donc ça nous permet de gérer nos filières à l'intérieur de l'établissement et d'éviter les risques de contamination croisée. C'est bien l'objectif, protéger les personnels, protéger les patients lors de leur venue au CHU de Lille.
Et avec l'augmentation de la capacité de son centre de prélèvement pour 3000 tests réalisés par jour, le CHU de Lille se dit prêt à répondre aux besoins de dépistage en cette période de déconfinement.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 à Lille.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal et la reprise de l'école à Paris, c'est pour demain. Un jour donc, après le reste de la France, deux jours même, mais dans les mêmes conditions d'extrême prudence. Alors Virginie Salmen, pourquoi ce délai? Cette reprise était plus compliquée à organiser à Paris qu'ailleurs?
Oui, notamment en raison du volume d'élèves. Il y a plus de 160 000 écoliers de maternelle et primaire à Paris. Près de 30 000 d'entre eux pourront faire leur reprise dans les prochains jours, selon les chiffres du rectorat, avec des ordres de priorité. Certaines écoles restent seront fermés, un peu moins de 10%, soit parce que les locaux, les couloirs notamment, sont trop exigus pour assurer les distances, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de professeurs présents ou d'assistants pour encadrer les élèves. Beaucoup de professeurs appréhendent un peu cette reprise, d'autres se disent carrément inquiets, selon Elisabeth Coutas, représentante du SNUIPP Paris, syndicat qui a pris ses précautions.
Nous, on a déposé un préavis de grève pour parer à toute éventualité. Si jamais des enseignants viennent et voient qu'ils ne peuvent pas faire leur travail correctement et donc d'abord respecter le protocole, et donc ça veut dire mettre leur santé en jeu et celle des élèves, bah peut-être qu'il y a des enseignants qui feront usage de leur droit de retrait. Quoi qu'il arrive, les enseignants qui ont toujours l'habitude de communiquer avec les parents vont de toute façon avertir au fur et à mesure les familles si un problème se présentait.
Et selon les informations des parents d'élèves, des places pourraient s'ouvrir à l'école à partir de lundi pour accueillir un peu plus d'enfants progressivement. Le recteur de Paris parle de 24% des élèves scolarisés d'ici la semaine prochaine.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1 notait que la reprise des classes est également prévue pour demain à Lille et à Lyon. Les grands magasins parisiens du boulevard Haussmann, les galeries Lafayette et le Printemps resteront fermés au public jusqu'au 10 juillet en application de la décision gouvernementale empêchant les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés de rouvrir en Ile-de-France, annonce ce soir de la préfecture de Paris. Parmi les secteurs que le confinement a mis en difficulté, il y a aussi l'agriculture. On en a beaucoup parlé, pas assez de main-d'œuvre pour la cueillette des fruits et légumes. Eh bien, bonne nouvelle, les saisonniers en grande partie venus de l'étranger, d'Europe de l'Est notamment, ont désormais le droit de revenir en France travailler. Pendant 2 mois, certaines exploitations ont reçu le soutien bienvenu de quelques volontaires, mais des volontaires forcément moins expérimentés. Reportage en Alsace, signé Arthur Enbaché.
On part du principe qu'il faut 10 jours pour apprendre à cueillir une asperge. C'est pas difficile à apprendre, mais il faut de l'expérience.
50 saisonniers volontaires, ça dépanne, ça ne remplacera jamais 50 cueilleurs chevronnés, les habituels polonais et roumains qu'embauche en général Dominique Lux, producteur à Pfetisheim. Résultat cette année, 70% d'asperges en moins.
Bah voilà, on est peut-être un peu plus lent, mais on essaie de sortir la meilleure qualité possible avec le temps.
Antonin, cueilleur volontaire sans expérience.
Dans les champs sous 25 degrés, donc effectivement, il faut apprendre à récupérer des grandes asperges avec, au début, on a un peu mal le dos, quelques ampoules à la main.
Mi-avril, l'administration française a bloqué un charter avec des Roumains censés travailler pour Pierre Morère à Dorlisheim.
N'oublions pas que de l'autre côté, donc environ à 30 km d'ici, les Allemands ont eu droit à faire venir 20 000 salariés roumains. Et donc nous, de l'autre côté, on n'a pas eu le droit. Ça nous met la position que l'administration n'en a rien à foutre de l'agriculture.
Alors maintenant, apparemment, ça va s'arranger.
Oui, bah bien sûr, il y a une éclaircie maintenant, quand le déconfinement a eu lieu, automatiquement, il y a une éclaircie. Voilà, on attend une vingtaine de personnes qui vont arriver fin de la semaine, de Roumanie. Et donc là, on est très contents qu'ils viennent pour palisser nos tomates.
Lisser les tomates, cueillir les fraises, essayer de rattraper le naufrage des asperges. Strasbourg, Arthur Enbaché, Europe 1.
La préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce un renforcement des contrôles à la frontière avec l'Espagne après avoir constaté depuis la fin du confinement un afflux d'automobilistes français dans les ventas espagnoles, ces magasins où alcool et cigarettes sont moins chers. À propos de cigarettes justement, ça fait partie des mauvais côtés du confinement. Révélé par une enquête de l'agence Santé publique France, elle a étudié notre consommation de tabac et d'alcool pendant ces 2 mois. Résultat, Ève Roger, un quart des fumeurs disent avoir fumé plus que d'habitude.
Oui, 5 cigarettes de plus en moyenne par fumeur qui reconnaissent avoir d'abord cherché à se faire plaisir, dit l'étude, mais qui ont aussi souffert d'ennuis et de stress, ce que confirme en partie Mélanie, une DRH de 47 ans de la région parisienne. Écoutez.
D'abord, moi j'ai eu beaucoup de travail, donc effectivement un coup de stress sur des sujets que je ne connaissais pas. Le fait d'être toujours connectée, donc il y a un moment, ma cigarette électronique elle était tout le temps déchargée. Et puis, clairement, une petite zone de liberté dans ce monde de confinement où on était un peu privé de liberté.
Et pour les 20% de ceux qui ont moins fumé que d'habitude, l'étude montre que c'est surtout à cause de problèmes d'approvisionnement avec beaucoup de bureaux de tabac fermés. Et puis côté alcool, contre toute attente, les 2/3 des Français n'ont pas modifié leur consommation. Seulement 10% reconnaissent avoir bu plus, c'est-à-dire plus souvent. Là, c'est le cas de Charlotte et de son mari qui, à la mi-mars, ont pris de nouvelles habitudes.
Quand le confinement nous est tombé dessus, moi, j'ai arrêté du jour au lendemain de travailler. Donc, j'ai eu cette sensation d'être en vacances. Cette impression d'être en vacances nous a incité, du coup, à prendre l'apéro tous les soirs. Du vin, essentiellement, à raison d'une bouteille tous les soirs. À deux, hein. D'habitude, c'est un apéro le samedi et on finit la bouteille le dimanche midi.
Enfin, contrairement à Charlotte, un quart des Français déclarent avoir moins bu pendant le confinement. L'explication est simple, sans pot entre amis ni repas de famille, ils disent avoir eu moins d'occasions.
Et voilà, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi, et un temps encore très instable au sud demain.
Oui, effectivement, Isabelle, avec toujours cette frontière délimitée par la Loire. Alors, pour toutes les régions situées au sud de la Loire, la journée de demain s'annonce encore nuageuse et pluvieuse. Sur la Gironde, le Massif central, le Limousin, l'Occitanie, les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon. Et bien, dans toutes ces régions, le ciel est très couvert demain avec en début de journée des brouillards. Et puis, dans l'après-midi, sur la Gironde, l'Auvergne et les Alpes du Nord, le soleil finira par se montrer. Quelques petites éclaircies qui font du bien sur les Pyrénées, le Limousin et la vallée du Rhône, le tonnerre se fera entendre demain au milieu de ces averses. Et puis au nord de la Loire, la journée est toujours très agréable, très lumineuse et ensoleillée. Attention tout de même au vent. Un vent qui souffle toujours sur toute la moitié nord du pays, même dans les terres, demain jusqu'à 60 km/h. Les températures, elles sont encore fraîches pour la saison avec 3 à 11 degrés demain matin, 3 pour Amiens, 5 à 3, 6 à Paris, 8 à Besançon, 10 à Bordeaux et Lyon et jusqu'à 15 degrés à Montpellier. Et au meilleur de la journée, 12 à 19 au nord, 12 à Cherbourg, 15 à Saint-Étienne, 17 à Paris et 20 à 22 degrés dans le sud, 21 à Nice et 23 pour Bastia.
Europe 1. Et dans un instant, c'est la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Caroline Parot, la présidente du directoire d'Europcar Mobility Group. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 22h16. Merci d'écouter Europe 1. C'est l'heure de votre rendez-vous avec la bourse et avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et le patron de la Fed a fait peur au marché ce soir. Du coup, Wall Street clôture dans le rouge.
Oui, les marchés sont inquiets. Le Dow Jones perd 2,17%, 23 247 points. Le Nasdaq enregistre un repli de 1,55%, 8 863 points. C'est la douche froide après un discours très prudent du président de la Réserve fédérale américaine. Jerome Powell s'attend à une période prolongée de croissance faible aux États-Unis. On est donc loin d'être sorti de la crise liée au coronavirus, selon lui. Et d'ailleurs, les craintes d'une seconde vague de contamination pèse encore ce soir sur les marchés. Alors tous les secteurs sont en baisse à Wall Street et c'est particulièrement tendu pour les valeurs pétrolières alors que le brut repère du terrain. Moins 5% pour ExxonMobil, moins 2,7% pour Chevron. Les banques aussi redoutent des faillites si la crise dure. Goldman Sachs recule de 3%. Et puis après un début de séance dans le vert, Tesla cède finalement 2,3%. Le comté d'Alameda en Californie pourrait finalement autoriser le groupe automobile d'Elon Musk à rouvrir son usine de Fremont dès la semaine prochaine. Peut-être une victoire donc pour le patron de Tesla qui est entré en guerre contre le confinement.
Et à Paris, Claire, l'indice CAC 40 a plongé sous la barre des 4400 points.
Troisième séance dans le rouge et une forte baisse de 2,85% à 4344 points pour le CAC 40. Les valeurs les plus touchées par la crise sont encore en première ligne, notamment dans les transports et le tourisme. Accor, le groupe hôtelier, perd plus de 3%. Europcar, le loueur de voitures, plonge de 5%. Airbus lâche encore 3,2%. L'avionneur réfléchirait à une restructuration. La presse britannique évoque même la suppression de 10 000 emplois. Airbus qui est très secoué par l'effondrement du transport aérien avec le coronavirus.
Et Claire, le secteur bancaire a également particulièrement souffert.
Oui, de grandes banques européennes comme Commerzbank en Allemagne ou ABN AMRO aux Pays-Bas ont publié des résultats jugés décevants. Alors ça pèse à Paris sur Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale qui perdent de 2 à 4% et puis une baisse de 3,5% pour JC Deco. La crise pèse fortement sur l'activité du spécialiste de la publicité urbaine. Les marchés reculent fortement en Europe ce soir, moins 1,5% pour Londres, moins 2,6% pour Francfort, moins 2,1 pour Milan, moins 1,9 pour Madrid. Et le CAC 40, lui, chute de 2,8% à 4344 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de boursier.com, on vous dit à demain. Et il est temps de retrouver l'invité d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir la présidente du directoire d'Europcar Mobility Group.
Bonsoir Caroline Parot.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la présidente du directoire d'Europe Car Mobility Group, que l'on connaît bien, groupe de voitures de location. Vous faites partie de ces activités qui sont bien évidemment très, très, très fortement touchées par la crise. Première question toute simple, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la situation d'Europe Car? Est-ce que ça reprend un tout petit peu maintenant que le déconfinement est là?
Ça ne s'est pas complètement arrêté, puisque bien évidemment, nos activités concerne le loisir, mais aussi tout ce qui est business. Donc on a toujours eu, pendant les mois de confinement, quels que soient les pays, une activité certaine dans les régions, avec des locations de véhicules utilitaires. Il est trop tôt pour dire que ça reprend. On voit des débuts de réservation. On a eu aussi, pays par pays, quelques locations de voitures de gens qui étaient en villégiature à l'extérieur des grandes villes et qui reviennent progressivement dans les grandes villes. Mais c'est vraiment un tout petit redémarrage.
Et les réservations, c'est pour quand? C'est pour là, par exemple, le week-end de l'Ascension, le week-end de la Pentecôte, ou c'est plutôt pour cet été où on réserve au cas où, si jamais on pouvait voyager un peu?
C'est un tout petit peu pour la semaine prochaine. Donc les gens, nos clients sont en train de se projeter à quelques jours. On commence à avoir un tout petit peu de réservation au cas où pour cet été. Mais alors c'est vraiment sympathique, hein. C'est quelques réservations. Par contre, sur tout ce qui est location de véhicules utilitaires, là on continue de voir une très bonne dynamique. Bien évidemment, l'explosion du e-commerce liée au confinement a nécessité beaucoup de besoins de livraison de colis. Et là, on voit que cette activité continue et ne s'arrête pas. Et au milieu de tout ça, on avait lancé une offre qu'on appelle Together, ou Ensemble en français, où on proposait un certain nombre de véhicules de façon flexible à des catégories ciblées de clientèle qui pouvaient en avoir besoin. On a fait des partenariats avec les hôpitaux de Paris. On a proposé des véhicules gratuits ou à moindre coût à un certain nombre de catégories socioprofessionnelles impactées par la crise. Et ça, ça continue dans cette période qui reste encore de déconfinement, donc très progressif.
Alors la situation est extrêmement compliquée chez Europe Car Mobility Group. Vous avez même été obligé de demander un prêt. Vous avez obtenu 220 millions d'euros de ces fameux prêts garantis par l'État. Vous êtes sûr que ça va vous suffire à passer la crise? Europe Car existera toujours après cette crise?
Alors Europe Car existera toujours parce qu'on a dimensionné l'ensemble de nos travaux pour faire face à cette crise. Faire face à la crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire notre base de coûts variables, donc réduire nos nombres de véhicules non utilisés par nos clients pendant un certain nombre de mois. Ça veut dire réduire nos coûts variables un petit peu partout et ça veut dire se préparer à repartir après les périodes estivales, puisqu'on aura de l'activité pendant les périodes estivales, mais moins qu'avant. Et on pense que les démarrages ou les redémarrages plus traditionnels avec les volumes qu'on a l'habitude de voir sont après l'été, à partir de Pâques 2021.
Et ça se fait sans licenciement chez Europe Car ou il va falloir également réduire la voilure?
Ça se fait sans licenciement vu d'aujourd'hui. On est en train de regarder pays par pays puisqu'il y a des dimensions qui sont très différentes. Alors après, il ne sera pas exclu effectivement qu'on redimensionne un certain nombre d'activités sur un pays, sur une région. Et donc, il y aura peut-être une fermeture de station, il y aura de l'ajustement. Mais globalement, nous allons protéger le plus possible l'ensemble de nos collaborateurs.
L'une de vos plus grosses sources de dépenses, c'est bien évidemment l'achat des voitures. Vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, le plus gros client, par exemple, des marques françaises. Très concrètement, vous allez leur prendre moins de voitures?
Très concrètement, nous prenons moins de voitures. Nous avons un modèle d'achat et de revente de ces véhicules à l'ensemble des constructeurs. Donc, ce qui nous permet, de notre côté Europe Car, d'avoir une très grande flexibilité et de revendre ces voitures aux constructeurs quand nous n'en avons plus besoin. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous n'achetons plus de voitures pour cette année, ou très peu. Il y a une répercussion directe, évidente.
Vous allez acheter combien de voitures en moins que ce que vous auriez dû acheter?
Toutes marques confondues, parce que on ne donne pas le détail par marque en général. L'année dernière, nous avions acheté environ 340 000 voitures et en moyenne sur l'année, on en avait 320-350. Cette année, nous allons acheter au minimum 40% de moins de ces voitures, ce qui fait probablement un peu plus de 100 000 voitures en moins que nous n'allons pas acheter sur l'année, voire plus si le redémarrage était plus lent que prévu.
Qu'est-ce que, d'après vous, cette crise va changer sur l'utilisation des voitures de location demain ?
On pense que cette crise va amener plusieurs paradigmes sur notre activité. Effectivement, il y aura d'abord un sujet pour les loueurs de voitures sur tout ce qui est le niveau d'hygiène et de sécurité de nos locations. Donc ça change tous nos process industriels. Donc on l'a déjà fait en un mois et demi, on a changé tous nos processus de nettoyage et des sécurisations d'hygiène de nos véhicules. Les visions très internationales des touristes vont devenir plus domestiques. Donc toutes les solutions de mobilité qui sont plus domestiques et locales vont devenir importantes. Et puis surtout, il y aura un accent très fort sur la digitalisation et la flexibilité de nos offres. Et là, on pense que ce qui était vrai avant va s'accélérer. Acheter une voiture aujourd'hui, c'est un coût relativement conséquent. Payer à l'usage une voiture pour une semaine, une journée, une heure, un mois ou quelques semaines, avec une très grande flexibilité rendue possible par rapport au digital, on pensait déjà que c'était l'avenir. Cette crise est un accélérateur parce que va permettre à l'ensemble des clients de ne payer que l'usage. Mais pour nous, c'est un accélérateur d'une vision de la mobilité plus partagée et plus moderne et plus digitale et puis surtout plus écologique.
Eh bien, merci beaucoup Caroline Parola, présidente du directoire du groupe Europe Car Mobility Group, d'avoir été notre invitée. Ce soir, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Et dans un tout petit instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Une plage, la mer, un palmier et au premier plan, un homme qui marche avec un masque sur le visage. C'est à la une des Échos qui titre « Un plan pour sauver le tourisme ». On en parlait tout à l'heure dans le journal. Le gouvernement dévoile demain un plan pour le secteur, des gestes très attendus sur le chômage partiel, sur les prêts garantis par l'État et sur les chèques vacances. Le grand blues des restaurateurs est à la une cette fois du journal La Croix. Le secteur de la restauration, l'un des plus touchés par la pandémie et qui reste dans l'incertitude sur sa reprise d'activité. Les mesures d'accompagnement qui devraient être annoncées demain lors du Conseil interministériel du tourisme risquent, écrit le journal La Croix, risquent de ne pas satisfaire la profession. Le virus à la trace, titre pour sa part Libération, concilier impératifs sanitaires et libertés individuelles. La mise en place des bases de données de suivi des malades et de leurs contacts s'accompagne de garanties et place les généralistes en première ligne. Balade sur la plage, à quelles conditions, titre Ouest France, de la Baule au Sable d'Olonne, plusieurs plages fermées depuis le confinement ont rouvert aujourd'hui le long du littoral atlantique. Mais attention, pas question d'imaginer étendre sa serviette afin de profiter des rayons du soleil qui pointent le bout de leur nez. Toute présence statique, assise ou allongée, est interdite. Radicalité, la nouvelle vogue en Macronie, c'est le titre de l'Opinion. Le président croule sous les propositions pour imaginer la fin de son quinquennat. Une partie de sa majorité lui conseille apparemment de l'aborder avec radicalité, reprenant un terme dévolu habituellement aux extrêmes. Et puis le Figaro a lui choisi de s'intéresser à la surprenante résistance de l'Afrique à la pandémie, alors que de nombreux spécialistes redoutaient une catastrophe en raison des systèmes de santé très fragiles. La plupart des pays africains ne sont que peu touchés par le coronavirus. Sur une population totale d'1,2 milliard d'Africains, on ne recense à ce jour que 2400 décès confirmés. Un impact très limité que cherchent à comprendre les spécialistes. La propagation du virus est-elle ralentie par la chaleur? Les populations ont-elles été immunisées par d'autres souches de virus? Ou bien l'épidémie est-elle cachée par la très grande jeunesse du continent? Des questions en tout cas cruciales pour l'avenir de l'épidémie qui pourrait s'aggraver dans les prochains mois. Et voilà pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes bien sûr en compagnie d'Olivier Delacroix, comme tous les soirs, pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.